Le but ici, c'est de questionner le lien entre économie et guerre, et puis de tenter de proposer différentes grilles d'interprétation de cette relation d'un point de vue principalement politique. C'est au tour de Mme Rémy Ringer, de prendre la parole.
Bien, bonjour tout le monde. Donc, sur le même sujet, là, sur le rôle de l'économie dans la guerre, moi aussi je vais partir de Jaurès, mais tout de suite ce que je voudrais dire, c'est que à partir de constats qui peuvent paraître similaires, il y a une cohérence ou il n'y a pas une cohérence dans les idées et dans la façon dont on discute du capitalisme, de quels sont les pays qui sont responsables des guerres aujourd'hui, et de ce que ça voudrait dire ou pas abolir le capitalisme, parce qu'on ne peut pas juste juxtaposer des idées. Donc en effet, Jaurès, il affirmait que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Ça veut dire assez clairement que la guerre, elle est inévitable en système capitaliste. Pas seulement depuis que les États-Unis sont devenus la puissance impérialiste dominante. Ça veut dire que le capitalisme et toutes les puissances impérialistes, dont la France, de toute façon, ce système aboutit à des situations de guerre. Et ça veut dire aussi, c'était la conclusion des révolutionnaires à la même époque que Jaurès, et c'est en attendant pour nous toujours la même, qu'en fait il y a deux voies pour l'humanité, le socialisme ou la barbarie. Et le problème c'est que la barbarie, la guerre, elle est déjà, c'est pas un pronostic pour demain, c'est une réalité pour quelque chose comme à peu près la moitié de l'humanité. Et c'est une réalité, bien entendu, alors il y a un certain nombre de guerres dont on a déjà parlé, mais c'est par exemple une réalité au Sahel, avec la responsabilité de la présence de l'armée française. Et l'armée française, elle est au Sahel, et ça ne fait pas reculer le terrorisme, non seulement ça ne fait pas reculer, on a vu les épisodes dramatiques dernièrement avec la mort des soldats, ça ne fait pas reculer parce que l'armée française, elle est au Sahel, pour défendre les intérêts impérialistes français. Et c'est ça qui crée la misère des populations d'Afrique et le terreau du terrorisme, quand même. Et ça, c'est une des causes de la guerre aujourd'hui. Tous les continents sont touchés par la guerre. Nous, on peut peut-être avoir, vu d'un point de vue d'un pays capitaliste, riche d'Europe occidentale, le sentiment qu'il y a la paix depuis 1945. Mais déjà, c'est complètement faux. Il y a la guerre partout dans le monde, et même en Europe, il y a eu deux fois la guerre, à 2 heures d'avion. Une fois en Yougoslavie, une fois en Ukraine. Et même pour parler de la paix, pour la France, il faut quand même oublier qu'il y a une génération, il n'y a pas si longtemps, qui a connu la guerre d'Algérie, et juste avant, la guerre d'Indochine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, on n'est pas dans un monde de paix. Et on l'est de moins en moins. La guerre, ce n'est pas un pronostic, c'est une réalité. Et évidemment, la Syrie, le Yémen, avec les armes françaises, quand même vendues à l'Arabie Saoudite, le Cachemire, ça dure depuis 40 ans. Et j'en passe, j'avais fait une liste, mais évidemment, à ce moment-là, je ne la retrouve pas. La Birmanie, le Mali, il ne faut pas l'oublier. Une guerre dont certains historiens disent que c'est une guerre mondiale, et ils ont raison, au Congo, la République démocratique du Congo, depuis 20 ans, 6 millions de morts. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais les trusts, et pas que les trusts américains, bien sûr les trusts américains, mais pas que les trusts américains, tous les trusts de la téléphonie pour cette fameuse matière première qui sert, ce minerai qui sert pour les téléphones portables, qui s'appelle le coltan, Voilà. Bon, bien sûr, c'est des guerres qui ont une particularité, c'est que les civils, les populations civiles, sont les plus touchées par ces guerres. C'est des guerres qui sont absolument épouvantables là-dessus. Il y a quelques semaines, il y a eu une conférence à Luxembourg sur les femmes victimes des viols de guerre, qui montre que la barbarie, c'est aujourd'hui en ce moment. Alors l'autre question, donc le monde, il est à feu et à sang, et il est à feu et à sang parce qu'on est dans un monde capitaliste, où l'ensemble des puissances impérialistes, dominantes et celles de seconde zone comme la France, de toute façon mènent ces guerres. Alors évidemment, une des questions, c'est est-ce qu'il y a un danger de conflit généralisé, une sorte de nouvelle guerre mondiale qui peut exister. À ça, nous, on dit oui, bien sûr. Tant qu'il y aura le capitalisme, il y aura ce danger. Et le problème, il n'est certainement pas... Alors, face à ce danger, oui, quels sont les enchaînements de demain? Quels sont les camps en présence? Ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut le dire. En attendant, nous, on peut... Enfin, moi, je ne peux pas le dire. Mais le danger de guerre, il est réel. Et des solutions face à ça, Oui, il y a un certain nombre de partis de gauche, un certain nombre d'États ont déjà eu des idées, ou nous ont fait croire que c'était des idées. On a vu les grandes puissances créer deux fois des organisations internationales de défense, du droit international, avec le succès qu'on connaît, hein, la FDN après la Première Guerre mondiale, l'ONU, grand organisme défenseur de la paix depuis 70 ans, bien entendu. Bon, évidemment, tout ça, ça ne mène nulle part. Le droit international n'a jamais empêché aucune guerre. Alors, j'y reviendrai, évidemment, certains proposent de sortir de l'OTAN pour empêcher les guerres. Je vais y revenir, mais quand même, j'ai envie de le dire, ça sous-entend que la France, elle ne faisait pas la guerre quand elle n'était pas dans l'OTAN. C'est-à-dire que la grande époque Éric appelle la souveraineté de la France, de ce que la France insoumise appelle la souveraineté de la France, c'est de Gaulle. C'est donc la période de la mise en place de la France-Afrique. Ah oui, la France a été souveraine, mais elle était souveraine parce qu'elle pillait une partie d'un continent quand même. Et la souveraineté de la France, c'est ça que ça veut dire. Donc non, je ne suis pas en train de défendre l'OTAN, l'OTAN, qui n'est pas un organisme caritatif. On est tous d'accord là-dessus. Je suis en train de dire que les dangers de guerre, ils ne sont pas liés seulement à la suprématie américaine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'en changeant de république, est-ce qu'en changeant de gouvernement, on peut empêcher la guerre? Eh bien, à ça, moi, je dis non. On dit non à lutte ouvrière. Et oui, on dit, parce qu'on est marxiste, parce qu'on est révolutionnaire, en effet, qu'il n'y a qu'un moyen d'empêcher la guerre, et il existe. C'est pas de l'abolir, le capitalisme, on peut pas l'abolir. C'est pas une loi qui l'a mis en place. C'est un processus historique. Donc c'est en renversant le pouvoir de la bourgeoisie. En France, aux États-Unis, dans tous les pays capitalistes. C'est le seul moyen d'empêcher la guerre. Parce que, en effet, l'état du monde dans lequel on est lié profondément au capitalisme. Parce que le capitalisme, c'est un système basé sur la concurrence et sur l'exploitation. Je m'arrête deux secondes, excusez-moi. Alors, et si au XXIe siècle, on est en train de se demander quand même, parce que c'est vrai, elle est juste la question, mais il faut mesurer ce qu'on est en train de dire. Pourquoi l'économie, c'est-à-dire le fait que l'humanité crée des richesses, quand même, depuis des millénaires, pourquoi l'économie engendre des guerres au lieu de justement assurer un mieux vivre à l'humanité? C'est parce que ces activités économiques, elles n'existent pas en tant que telles. Elles sont toutes dominées, dirigées, parce que possédées, dans l'intérêt seulement de la bourgeoisie, de la recherche du profit. Et pas je dis la bourgeoisie, mais ce n'est pas la bourgeoisie, de bourgeois, tous en concurrence les uns avec les autres. Et c'est ce mécanisme qui est porteur de toute façon de guerre, qu'on les appelle économique, commerciale ou militaire. Pour moi, tout ça, c'est un enchaînement. Le capitalisme, il a dans son ADN la concurrence. La concurrence, c'est la guerre de tous contre tous. Tant que ça existera, il y aura des guerres. Voilà. Et on sait que cette recherche du profit, alors bien entendu, je crois qu'on est assez d'accord là-dessus, donc je ne vais pas m'éterniser. Le profit pour les capitalistes, c'est le travail humain, c'est l'exploitation du travail humain. Donc la première guerre qu'ils mènent, c'est la guerre contre les travailleurs. Bon là, je pense quand même qu'on doit être assez nombreux d'accord dans cette salle, on pourra en discuter. Mais sur cette recherche du profit, ils sont en concurrence les uns avec les autres. Et c'est ça qui les mène à vouloir conquérir des marchés, des matières premières, des débouchés pour leurs capitaux, des territoires, etc., pour s'accaparer toujours plus de richesses. C'est-à-dire qu'ils ont créé un monde, parce qu'il n'y a pas, à mon sens, une première mondialisation, une deuxième, une troisième, il n'y en a qu'une. C'est la période, moi c'est pas trop Jules Ferry, c'est plus Lénine, mais c'est la période de l'impérialisme, en effet, du capitalisme, où ces grands groupes capitalistes, ces monopoles, ont tellement concentré les richesses qu'aujourd'hui, on en est à dire, bah, tout le monde a entendu ce chiffre, 26 milliardaires sur la planète possèdent autant que la moitié de l'humanité. Ils ont organisé l'activité, le travail, la production de richesses de centaines de millions de travailleurs dans le monde pour enrichir une minorité. Et quand on dit une minorité, on n'en est même plus à la période des 200 familles. 26 milliardaires possèdent autant que la moitié de l'humanité. C'est un monde de dingue. Et c'est un monde, évidemment, complètement explosif sur lequel on est. Bon, alors évidemment, nous, on discute de ça du point de vue des travailleurs, parce qu'on pense que c'est de ce point de vue-là, de la lutte des travailleurs, parce que c'est eux qui sont au cœur de cette production de richesse, c'est les seuls qui peuvent le renverser, ce pouvoir des capitalistes. Et donc on se place de ce point de vue-là, parce que c'est leur lutte, et il n'y a que cette lutte qui pourra, pas abolir, mais renverser le pouvoir de la bourgeoisie et construire un autre monde. Et la lutte des travailleurs, bien entendu, dans nos têtes, c'est la lutte des travailleurs d'un point de vue international, pas les travailleurs mis en concurrence les uns avec les autres. Alors, cette fameuse concurrence capitaliste, elle existe depuis le début et elle n'a jamais été ni libre, ni, leur terme c'est quoi, loyale, hein,
non faussée.
Ah oui, j'arrive pas à le retenir, non faussée. Voilà, la concurrence, elle a toujours été absolument truquée, voilà, et guerrière. Alors, je vais reprendre des exemples sur lesquels on est absolument, on est d'accord, hein, où Eric donnait les mêmes. Bien entendu, mais je rappelle, avant l'OTAN, avant les traités de libre-échange, avant l'Union européenne, les capitalistes, ils ont commencé par déporter 15 millions d'Africains pour les faire travailler dans les plantations qui étaient les premières entreprises capitalistes mondiales, mondialisées, on va dire, pour le sucre, pour le rhum, etc., dans le commerce triangulaire, pour et ça a donné l'accumulation de richesses qui est à la base de la révolution industrielle. Et en même temps qu'ils faisaient ça, dans la même période, directement, bien sûr, c'était des guerres partout sur la planète. On parle des rapports entre les États-Unis et la Chine, mais les premiers rapports économiques entre l'Europe et la Chine, c'est les guerres de l'opium. C'est-à-dire, c'est les bourgeois anglais, français, danois, etc., qui font la guerre pour imposer à la Chine d'accepter le commerce de l'opium. Voilà, parce que l'opium, ils le produisaient entre les Britanniques en Inde, où ils avaient déjà laminé la paysannerie indienne en lui imposant une culture d'exportation, voilà, des matières premières d'exportation, l'opium, premier rapport économique entre la Chine et l'Europe. Donc évidemment, cette guerre économique et cette guerre tout court, elles sont indissolublement liées, excusez-moi, dans le capitalisme. Et ça, ça a pris une dimension beaucoup plus violente, brutale et mondiale avec la période impérialiste. Cette période impérialiste, je préfère parler comme ça de la première mondialisation, ce qu'Eric appelait la première mondialisation, parce que c'est vrai que cette période de monopole, de formation des monopoles, partout, ça a donné, dans tous les pays européens, la course aux colonies. Et là, je voudrais faire remarquer que cette course aux colonies, elle a eu lieu dans tous les États européens, quelle que soit la forme de gouvernement. Ce n'était pas une volonté politique venue de nulle part. Que ce soit les gouvernements républicains comme la France, monarchiques comme l'Angleterre, impériaux comme l'Allemagne, que ce soit des États petits comme la Belgique, gigantesques la France, par exemple, tous sont partis à la conquête du monde pour se partager le monde. Et c'est-à-dire que tous les États nationaux ont servi le bras armé, leur groupe capitaliste, qu'ils protégeaient en même temps à l'intérieur sur leur marché national, à l'intérieur de leurs propres frontières. Tous sont allés dans le sens du militarisme, et c'est quand même au nom des Michelin, Unilever, De Wendel, Schneider, Thyssen, Krupp, etc., que ça a fini tout ça avec la Première Guerre mondiale. Et là où je suis tout à fait d'accord, c'est que de la Première Guerre mondiale à la Deuxième Guerre mondiale, d'une certaine façon, c'est la même. Parce que ces mêmes pouvoirs, ces mêmes États impérialistes, non seulement ils ne peuvent pas empêcher la guerre, mais ils sont incapables de faire la paix. Le traité de paix de 1919, là, le traité de Versailles dont on reparle en ce moment, mais il porte en lui la guerre. Et ce n'est pas les historiens seulement aujourd'hui qui le disent, les révolutionnaires de l'époque, Rosa Luxembourg, Lénine, Trotsky, ils disaient en 1919, la Seconde Guerre mondiale, elle démarre là. On en a les causes, on en a tout, le processus, etc. Voilà, parce que la guerre, elle est permanente dans la période impérialiste. Alors évidemment, elle a été latente, on va dire, pendant 20 ans, et puis elle a connu une nouvelle phase d'accélération avec la crise de 1929. Parce que c'est le capitalisme qui porte ça. La crise de 1929, l'écroulement de la production, l'écroulement du marché mondial, les mesures protectionnistes de l'époque, voilà, tout ça, ça a accéléré. Et il n'y a eu qu'un débouché à cette guerre, à cette crise, voilà, je l'ai dit, c'est la guerre. Alors là où on commence, je crois, et donc une seconde fois, le capitalisme a jeté le monde dans la barbarie. là où je crois qu'on commence vraiment à être un peu en désaccord, mais au moins ça va permettre le débat, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur le cadavre des 100 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale. Là, on nous raconte l'économie capitaliste, elle s'est relevée, et puis on a droit à la fable des 30 Glorieuses et de l'État-providence, j'ai entendu, du capitalisme français, du capitalisme bridé dans les années donc de 1945 à 1975, je suppose. Bon, alors là, on est en désaccord complet, quoi. Parce que la domination impérialiste, elle a absolument continué. C'est la période, enfin, 45, la guerre, le 8 mai 45, la France, elle faisait tirer sur les manifestations des Algériens, à Sétif et à Guelma. C'est-à-dire que le jour officiel de la paix, la guerre coloniale a démarré pour la France souveraine. C'est ça la souveraineté de la France. Un an après, c'était la guerre d'Indochine et Madagascar et le Cameroun, la guerre du Cameroun, qui a été très très silencieuse, enfin, pour les institutions, je veux dire, hein. pas pour les Camerounais. Mais tout ça, c'est sur cette base que le capitalisme français il s'est relevé, et puis la génération des mineurs de 47, quand même, hein, la génération la plus silicosée. C'est-à-dire que le capitalisme français, il s'est relevé, il y a eu la sécurité sociale, etc. Il y a eu ceux qui ont crevé pour que les bourgeois capitalistes français y retrouvent leur richesse. Et ça a été ça, et ça a été un monde de guerre. La différence, c'est qu'il y avait un impérialisme dominant. C'était plus les Britanniques, c'était plus la France, c'était les États-Unis. Mais le même rapport de force, bon, en défaveur de la France. Voilà, ça c'est sûr. Bon, et puis évidemment, bah, cette période, elle n'a pas duré si longtemps, et les années 30, le capitalisme, il a replongé dans la crise, avec une aggravation avec cette crise qui dure depuis 40 ans, qui aboutit à une financiarisation de l'économie. Alors là, on atteint un deuxième point sur lequel on n'est pas d'accord. On est d'accord sur la financiarisation de l'économie. Financiarisation de l'économie, ce n'est pas le libre-échange. Protectionnisme ou libre-échange, c'est les deux politiques de la même bourgeoisie. Juste, elle ne s'en sert pas au même moment. Évidemment, quand la bourgeoisie, elle est dominante et elle est puissante, elle est libre-échangiste, sans rire. Puis quand elle est plus faible, elle est protectionniste. Bon, mais c'est qu'une question de rapport de force. C'est pas une question de choix politique ou d'une politique qui serait plus juste ou moins juste du point de vue des travailleurs. Parce que le protectionnisme, nulle part dans le monde, ça protège les travailleurs. Les frontières, ça protège pas les travailleurs. Les frontières, ça protège les profits des capitalistes nationaux. Là, les mesures... Alors, je sais bien, personne va défendre Trump dans cette salle, je suppose. Bon, mais les mesures protectionnistes de Trump, c'est la population américaine qui la paye, qui les paye là. L'augmentation des prix, c'est la population américaine qui les paye. Et là où la population chinoise de l'autre côté. Voilà, ça ne protège strictement rien. On l'a vu pendant la Seconde Guerre, on l'a vu avant la Seconde Guerre mondiale, et on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, le monde, il n'a jamais été complètement libre-échangiste, hein. Même quand ils étaient soi-disant, quand c'était l'OMC, etc., tous y trouvaient les moyens de protéger leur marché, avec des mesures sanitaires, avec des mesures techniques, etc. Mais ils n'ont jamais été complètement protectionnistes. Ne serait-ce que parce que la bonne blague, ils reprochent à Huawei, là, à l'État chinois, de soutenir leur industriel de la téléphonie. Parce qu'il n'y a pas un État impérialiste qui achète à ses propres capitalistes ou qui défend ses propres capitalistes. Bien sûr, ils le font tous. Et c'est une façon de protéger les marchés nationaux aussi. Donc, en effet, ces politiques, c'est juste des politiques, des choix, à un moment, de la bourgeoisie, pour essayer de se sortir d'une crise. Mais le fond, c'est que la crise, elle ne peut pas en sortir. Elle n'y arrive pas, c'est impossible. Et même ces mesures protectionnistes, tout ce que ça fait, c'est que ça fait reculer encore le commerce mondial. De toute façon, c'est un cercle vicieux. Moi, je défends ni l'un ni l'autre, ni le libre-échangisme, ni le libre-échange peut-être, ni le protectionnisme, parce que justement, nous, on refuse de choisir dans les politiques de la bourgeoisie. On pense que les travailleurs, au contraire, ils doivent refuser tout ce qui les met en concurrence les uns avec les autres. Et donc, ces mesures-là, en aucune façon, je redis, elles peuvent protéger les travailleurs. Par contre, elles participent de ce cercle vicieux d'un recul de la production. Plus les tensions sont exacerbées, plus en effet les groupes capitalistes, ils sont en guerre les uns contre les autres pour gagner des parts de marché et des territoires, et plus les dangers de guerre sont là. Et c'est sûr que les dangers de guerre sont là. Que ce soit, alors est-ce que ça sera la Chine, les États-Unis? En attendant, les bateaux militaires, ils sont en mer de Chine. Là, dernièrement, l'histoire de la frégate française. Oui, il y a une compétition dans cette partie du monde parce que c'est un sacré marché. Est-ce que c'est ça qui déclenchera un conflit généralisé ou autre chose? On n'en sait rien. Mais c'est les tensions économiques, les tensions de ces grands groupes capitalistes pour essayer de gagner des parts de marché parce que leur économie, elle s'écoule. Bon, et c'est ça leur problème aujourd'hui, c'est que de toute façon, leur production, leur marché s'écroule, et que la seule solution qu'ils trouvent à ça, c'est la financiarisation, c'est spéculer, c'est placer des capitaux dans la spéculation. Seulement, plus ils placent des capitaux dans la spéculation, plus finalement ils créent des bulles spéculatives, plus ils ont de capitaux à placer. Voilà, et depuis 2008, on a bien vu, et ben ça continue à gonfler, tout ça. Et ça, ils se battent pour trouver des nouveaux marchés ou pour empêcher les concurrents de rentrer chez eux. D'où, en effet, les choix protectionnistes à l'heure actuelle, mais qui ne régleront rien au capitalisme. Voilà, absolument rien. Alors, les solutions, bon bah, je l'ai dit, hein. Et puis l'internationalisme, quand même, j'y tiens, je pense que c'est important parce que ça a toujours existé. Et aujourd'hui, on a un véritable danger, on le voit bien en Europe, on le voit bien dans la montée des gouvernements en Europe. L'idée, le capitalisme, il repose sur l'idée de mettre les travailleurs en concurrence les uns avec les autres. Bon, voilà. Quand c'était pas les travailleurs d'Europe de l'Est, c'était les Savoyards qui montaient à Paris, les Auvergnats, les paysans bretons, etc. Ensuite, ça a été, ou en même temps, parce que ça leur pose pas de problème, les femmes et les hommes. Le travail des enfants aussi, ça leur a bien servi. Quand ce n'était pas l'ouverture des frontières, c'était l'utilisation du travail de nos camarades immigrés qui venaient des colonies. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la concurrence avec les travailleurs détachés. Mais les travailleurs, ils y sont pour rien. Les travailleurs détachés, ce n'est pas eux qui fixent leur salaire. C'est quand même les patrons et les patrons d'ici. Et je sais bien qu'il l'a regretté après, ses propos, enfin, qu'il est revenu en arrière. Mais dire, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, qu'un travailleur détaché, il vole le pain. Ah oui, c'est plus facile. C'est plus facile de le nier, je suis d'accord. C'est plus compliqué, mais c'est bien, je suis d'accord avec vous, parce qu'on ne peut pas assumer un truc pareil. Je suis d'accord. Ok. Moi, je... Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pas de problème, mais on est d'accord, on ne peut pas dire ça. Pas de souci. C'est comme ça. Donc en effet.
On laisse Madame Boeménger terminer.
Ouais.
Et on prendra le temps pour les questions ensuite.
Ah ouais. Tout ça normal aussi. Mais même ça, il faut accepter aussi la concurrence des idées, elle est pas mal. Voilà, les idées. Donc je redis ouais. Je redis, ah ben ouais, je vois bien. Mais c'était le but, hein, de gratter là où ça fait mal. Je suis vraiment désolée. Voilà. Donc, dire que les travailleurs détachés, ils volent le pain des autres, c'est scandaleux. Il n'y a pas de travailleurs qui volent le pain. Les responsables, voilà. Les responsables, c'est les patrons.
Ouais, voilà. De toute façon, là, on aura un débat. L'idée centrale, ça reste l'idée que les travailleurs détachés, c'est bon, ne veulent pas le pain des Français. C'est bon, on part là-dessus, on est d'accord.
Voilà. Bien. Et donc, jouer sur la concurrence entre les travailleurs en Europe et parler des frontières qui protègent, ouais, c'est une idée nuisible, complètement nuisible. Parce que la seule solution pour les travailleurs, c'est l'unité au-delà des frontières. L'unité contre leurs propres patrons, contre les capitalistes d'ici. Et c'est le seul moyen qu'on aura d'être fort pour le renverser, le capitalisme. Certainement pas en attendant, ni en croyant que le problème, c'est l'Union européenne, c'est Bruxelles, c'est ailleurs, mais c'est pas ici où ça permet de dédouaner les capitalistes français, ni en pensant qu'un gouvernement, quel qu'il soit et quelle que soit sa volonté, peut justement empêcher les capitalistes de nuire sans toucher à leur propriété, sans toucher à leur possession. Il n'y a qu'un moyen d'empêcher les capitalistes de nuire, c'est en effet de les contrôler et de les exproprier. Je crois que je vais m'arrêter là.
Merci.
Sur la question du protectionnisme. Le protectionnisme n'est pas forcément synonyme de nationalisme. Évidemment, aux USA, le protectionnisme vu par Trump, c'est du nationalisme, on est bien d'accord là-dessus, mais on peut mettre d'autres choses derrière le protectionnisme, par exemple des règles sociales, environnementales, etc. Voilà.
Peut-être que dans les années 50, en fait, lorsque l'économie s'est reconstruite, ça a été un effort, non pas dans le but de fournir à nouveau du profit à la bourgeoisie. Enfin, il me semble que ça a été d'abord pour reconstruire la vie des gens. Quand on a fabriqué des écoles, qu'on a fourni les moyens de refaire des boulangeries, c'était aussi pour refabriquer une société. Donc peut-être ensuite, le capitalisme utilise cette reconstruction, mais à la base, est-ce que vous ne pensez pas que cette reconstruction après-guerre était avant tout motivé par les raisons sociales.
Sur les travailleurs détachés, Jean-Luc l'a redit et répété à nombreuses reprises, ça avait été dans un extrait de 30 secondes, parce qu'au Parlement européen, vous n'avez même pas une minute pour intervenir, et que bien évidemment, nos pensées, c'est pas sur le travailleur lui-même, d'accord ? On défend la régularisation des travailleurs sans papier, on se bat pour justement que les travailleurs étrangers en France aient les mêmes droits que les travailleurs français. Mais justement, c'est de faire en sorte que les travailleurs qui travaillent en France aient les mêmes droits. Que ils aient les mêmes cotisations sociales, qu'on n'impose pas, on n'utilise pas des travailleurs pour faire du dumping social interne en France. Et là, on devrait être tous d'accord, parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un autre contrat de travail.
Voilà, merci. J'aime bien.
Alors moi, je vais commencer par l'histoire de la reconstruction. Est-ce que c'était un effort pour reconstruire avant d'être un effort pour fournir des profits à la bourgeoisie? Ça, je suis convaincue que pour une grande partie des travailleurs et des gens, c'était un effort pour reconstruire, bien sûr. Est-ce que finalement, derrière De Gaulle, c'était avant tout, et que là, ça a été une politique de... Pourquoi c'est De Gaulle qui a nationalisé, voilà, par... alors, contraint... Ah ouais, c'est, on a du mal avec le débat là quand même. Alors, pourquoi De Gaulle il a nationalisé? Parce que les bourgeois français, ils avaient tellement collaboré en grande partie qu'ils n'étaient pas capables de foutre du fric là-dedans, et qu'il n'y avait que ce grand bourgeois qui était De Gaulle, qui, une fois qu'il avait mis dans son gouvernement le Parti communiste, oui, pouvait faire travailler tout le monde pour la reconstruction de la bourgeoisie française. C'est comme ça. Avec des gens qui voulaient autre chose, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il a fallu les désarmer. Voilà. Parce qu'il y avait un certain nombre de militants, ils voulaient autre chose à la fin de la Seconde Guerre mondiale que le pouvoir de De Gaulle. Et que le pouvoir colonial de De Gaulle, bien sûr, c'est évident. N'empêche que la réalité, c'est que c'est la bourgeoisie française qui s'est enrichie et qui a été reconstruite. C'est elle qui a pu assurer ses profits. Et De Gaulle, il est allé jusqu'au bout du service avec la bourgeoisie française, parce que la bourgeoisie française, elle avait un cul lourd. C'était l'Empire colonial qui l'empêchait d'aller vers la technologie et de récupérer et d'aller de l'avant. Et De Gaulle, il est arrivé à lui faire faire ce virage que les bourgeois français, ils ont eu un peu de mal à faire. C'est de lâcher, enfin l'Empire colonial, de lâcher la domination coloniale sur cet empire, parce qu'ils n'ont pas lâché la domination complète, pour passer à l'Europe. Voilà, parce que c'est pareil, l'Europe, moi je veux bien qu'on soit... l'Europe, qui est-ce qui domine en Europe? Quels sont les capitalistes qui oppriment en Europe? Ben avant tout, avec les capitalistes allemands, les capitalistes français. La dette grecque, c'est quand même la Société Générale et le Crédit Agricole. Bon, et c'est les capitalistes français. Excusez-moi, il y a plus d'Auchan en Pologne que de magasins polonais ou roumains en France. Qui est-ce qui possède la fameuse BCE qui est censée nous opprimer à 50% des capitaux français? Bon, et quand c'était de toute façon la Banque de France, c'était les 200 familles. C'était pas les travailleurs français, c'était pas la population française qui était souveraine sur la Banque de France. Elle vient de là, l'expression des 200 familles, les 200 actionnaires de la Banque de France. Voilà, et c'est eux qui avaient la main sur le franc. Pas nous, pas nos parents, pas... ça a toujours été ça. Donc, en effet, voilà, le problème, il est là. Alors, cette histoire d'Europe, est-ce qu'il y a un protectionniste qui n'est pas nationaliste ? Dans la tête des gens, c'est encore une autre discussion. Est-ce qu'il y a un protectionnisme ? Maintenant, est-ce qu'il y a une politique protectionniste qui servirait autre chose que les intérêts des bourgeois ? Ah, ça, c'est clair, moi, je dis non. Les politiques protectionnistes, ça permet aux bourgeois nationaux de s'assurer un marché. C'était ça, la colonisation, c'était le précaré.
Si on change de paradigme.
Ouais, c'est pas grave. Allez-y, vous avez du mal, enfin, mais je vais quand même... Voilà, avec le fait de... C'est fou, hein, de pas... Pourtant, c'est des idées, je veux dire, ces idées internationalistes-là, ces idées qu'il faut pas... Le premier qui a écrit que protectionnisme et libre-échange, c'est deux phases de la politique pour la bourgeoisie, c'est Marx, hein. Figurez-vous qu'on a, là-dessus, on n'invente pas grand-chose. Alors, donc non, le protectionnisme, c'est forcément quelque chose qui va permettre aux patrons d'augmenter les prix ici et de faire jouer la concurrence en disant aux travailleurs, va falloir bosser plus pour être compétitif. Ça va avec. Regardez, franchement, les travailleurs britanniques, ça va mieux avec le Brexit. Alors, je vais continuer, hein, quand même, là-dessus. C'est pas, je crois pas que quand on a son jardin, c'est un capitaliste qui a son jardin. Maintenant, la discussion, c'est pareil sur le dumping social. On parle du dumping social imposé par l'Europe.
Alors, attendez,
parce que vous comprenez ça. Ouais.
Ce que je vous propose de faire, c'est, je comprends qu'il y ait des réactions au discours. Cependant, on laisse Geneviève terminer ses réponses et ensuite il y aura un nouveau tour de prise de questions.
Il n'y a pas d'interactivité avec la salle, donc il faut des réponses un peu plus courtes et que les gens puissent poser leurs questions.
Voilà, ok, d'accord. Alors, on égalise les temps de parole, donc Geneviève peut continuer encore et après les intervenants essayeront si possible de faire un peu plus court.
Alors, le dumping social imposé par l'Union européenne, la dernière usine que PSA a fermée, c'est pas pour en ouvrir une en Europe, c'est pour répartir la production entre ces quatre autres usines de montage en France. Voilà, et c'est des milliers d'emplois qui ont été supprimés. Bien entendu, le dumping social, l'ennemi, il est dans notre propre pays. Le dumping social, c'est avant tout les patrons français qui le mènent. C'est pas imposé par l'Europe, parce que ce qui est imposé par l'Europe, c'est imposé par l'ensemble des gouvernements dominants en Europe. Moi, ce que je dis, ce que nous disons à Lutte Ouvrière par rapport à ça, c'est que, bien entendu, l'Union Européenne, c'est un rassemblement de brigands. Ils sont unis. Et on dit, les brigands unis ou divisés, c'est toujours des brigands contre nous. On n'a pas à choisir si on veut les brigands unis ou les brigands divisés. On a à les combattre. Alors là, on a la réponse, la révolution en un claquement de doigts. Je ne sais pas qui a parlé de claquement de doigts. Voilà. Mais non, on ne pense pas que la révolution, c'est en un seul claquement de doigts, ou en deux, ou en dix. On pense que c'est s'attaquer au pouvoir des capitalistes. Et en effet, contrairement à ce que dit Eric, nous on est pour gouverner, moi je suis pour qu'on gouverne, mais pas dans le cadre du système, parce qu'aujourd'hui, gouverner dans le cadre du système et des institutions, ça ne peut être que gérer les affaires de la bourgeoisie. Tout à l'heure j'ai entendu parler de Reagan et de Thatcher, je suis bien d'accord que c'est eux qui ont fait un basculement dans la politique de la bourgeoisie, il en manque un dans le trio, Reagan, Thatcher, Mitterrand. Voilà, même époque, même politique d'attaque contre les travailleurs. Les attaques contre les travailleurs en France, ça a commencé avec Mitterrand. Alors, juste pour finir, le capitalisme, il n'est pas réformable. C'est-à-dire qu'il faut s'attaquer, ça veut dire prendre, exproprier les bourgeois. Et ça prendra du temps, ça ne sera pas un claquement de doigts.
Mais du coup, vous, votre entreprise, c'est des solidités, des solutions. Mais à part le fait que tout le monde se lève d'un coup partout, ça semble difficile, même si on l'espère, je suis sûr. Donc déjà, à ce niveau-là. Et ma question est la suivante. Qui n'a rien à voir avec ça, l'écologie, qui pour moi est dominante sur ce qu'on parle à l'instant, est-ce que la guerre générale est évitable dans le cadre de l'explosion exponentielle de la démographie humaine?
Quelle solution concrète est-ce que c'est proposé? Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, le capitalisme, c'est la guerre pour la lever, très bien, mais comment faire? Parce que c'est compliqué. Et moi, ma question s'adresse aux deux intervenants. Parce que bah, d'un côté, exproprier les bourgeois, bon, je pense que ma mère n'a pas été d'accord.
Donc, sur la révolution, c'est parce qu'il y a cette volonté pour déformer les idées révolutionnaires de toujours ajouter le même soir, le grand soir, en même temps, tout le monde en même temps, etc. Mais ça, c'est une déformation volontaire. Donc, non mais, en général, j'ai pas... Maintenant, qu'est-ce que c'est notre solution qui est particulièrement concrète? C'est qu'en effet, abattre, abolir, je disais juste abolir, ça veut rien dire le terme, mais c'est pas grave. L'idée d'en finir avec le capitalisme, c'est un système économique, mais qui repose sur le fait qu'une classe sociale, on les a vus, ils viennent de filer en une nuit 1 milliard pour Notre-Dame, les Arnaud, Muliez, Pinault, etc. Ils existent, ils sont ici. Bah attends, alors, il faut que je réponde, mais en même temps, dès que ça te plaît pas ou dès que ça te dérange...
On est d'accord, en fait.
Eh ben oui, mais excuse-moi, c'est un raisonnement, ça s'appelle. Et un raisonnement, ça veut dire qu'il faut que je le tienne jusqu'au bout, je fais le plus vite que je peux. Eh ben, il faut les exproprier, les seuls qui peuvent, oui, les exproprier. C'est-à-dire ce que les paysans français, ils ont fait avec les nobles, de dire, dehors, c'est plus à vous. Pourquoi c'est plus à vous? Parce que les travailleurs dans ce pays... Ils font tout tourner, ils sont partout, ils peuvent tout contrôler, ils peuvent la prendre en main, cette économie, la gérer en disant les actionnaires, c'est plus à vous. Et on planifie l'économie. C'est pour ça qu'on est communiste, on la met en commun. Cette idée, c'est un processus, bien sûr, personne, aucun révolutionnaire, aucun marxiste n'a jamais dit ça va se faire en un soir. Ça, c'est les anti-révolutionnaires qui ont toujours présenté ces idées comme celles du grand soir. Mais cette idée de révolution, oui, pourquoi révolution? Parce que c'est pas avec des lois, c'est pas avec un gouvernement dans le cadre des institutions, c'est en arrachant. La propriété privée, elle est dans la loi, mais les patrons, ils sont devenus propriétaires par un processus historique. Il faut leur arracher le pouvoir en les expropriant, et ça, c'est la classe ouvrière qui peut le faire. Voilà, et c'est très concret comme ça.
Ça serait bien de décroître pour que tout le monde ait de quoi vivre bien, mieux répartir les richesses. Est-ce que ça serait décroître? Et les guerres, c'est vraiment un facteur d'une augmentation de CO2 énorme. Comment on oublier tout ça? Comment on va survivre?
Plus fort, s'il vous plaît.
Je suis favorable à certaines doses de souveraineté populaire. J'ai bien compris. Et qu'est-ce que vous pensez de ce fameux référendum d'initiative citoyenne?
Merci. Et puis la dernière.
Alors moi, c'est juste une question de recherche. On a bien compris le rôle du capitalisme financier dans les guerres, mais j'ai entendu parler depuis ce matin d'oligarchie et de bourgeoisie. Alors je voudrais savoir la différence que vous mettez entre ces deux mots.
Merci.
Je vais revenir parce que c'est lié sur l'écologie, sur la décroissance, finalement sur le capitalisme. Cette histoire de qu'est-ce qui nous différencie et de quoi on discute. On est d'accord. Voilà, on discute de la même chose quand on dénonce le capitalisme. On dit qu'il faut le changer, mais comment? Moi, ce que j'entends, c'est quand même des mesures qui parlent de le brider, de le limiter, des traités. Et c'est là, j'entends pas, parce que dire, non, on est contre ce que je partage, l'obsolescence programmée, la consommation où il y a des paquets autour des paquets de yaourt, des paquets de yaourt autour des etc., etc., tout ça pour faire vendre plus, etc. Bon, là-dessus, cette dénonciation, on la partage. Ok. Mais comment on y met fin en laissant le pouvoir aux capitalistes? Parce que d'expliquer que le capitalisme entrepreneurial et celui d'aujourd'hui, ce n'est pas le même et que ça change des choses. Oui, mais justement, Il a eu cette évolution, il n'y aura pas de retour en arrière. Il est de plus en plus parasitaire. Et on ne peut pas, et c'est là ce que je dis, ce qu'on affirme, c'est qu'on ne peut pas le limiter par des mesures. On ne peut pas le réformer. En fait, c'est la discussion réforme ou révolution, là. Est-ce qu'on peut réformer pourquoi j'ai dit un gros mot? Oui, c'est la discussion sur réformer ou exproprier les bourgeois. Est-ce qu'on peut le réformer? Est-ce qu'on peut le brider? Est-ce qu'on peut limer les dents du requin? Non. Voilà. Si on laisse la classe qui domine posséder et continuer à diriger l'économie, elle le fera avec la même logique. Donc, en effet, c'est un changement radical de classe dominante. Et c'est là où c'est un aspect révolutionnaire. C'est lié avec l'histoire de la souveraineté et du RIC. Alors, l'idée qu'en effet, c'est à la population de décider et d'agir et de tout contrôler, alors ça, c'est une idée qui d'ailleurs est née du mouvement ouvrier, en fait, hein, parce que c'est la Commune de Paris, quand même, et c'est une idée absolument juste. Moi, là où j'aurais envie de poser un point de discussion, c'est quelle souveraineté on peut imaginer aujourd'hui dans un monde où, en effet, les capitalistes possèdent tout, y compris les médias. C'est-à-dire qu'il faut changer de régime politique et qu'il faut une autre démocratie, évidemment. Je dis juste que ça, avec le pouvoir des capitalistes, c'est un leurre, ça n'existe pas. Parce que notre vie, parce qu'on est en majorité des travailleurs, elle commence par le pouvoir qu'on a sur notre boulot et on n'en a pas. Notre sort, il dépend de notre boulot. Et nous, les travailleurs, pour un patron, on n'est que des futures choses à jeter. Voilà, notre vie dépend de notre emploi. Et notre emploi, il dépend du fait que le patron, il veut ou pas économiser sur la masse salariale. Tant qu'on ne touchera pas à ça, on ne touche pas à ce qui fait notre vie, ce qui fait notre sort. Et donc, la démocratie, pour moi, elle commence par la mainmise sur l'économie.
J'aimerais bien savoir comment accueillir dignement ces gens qui fuient par rapport à la guerre économique.
Est-ce qu'on a encore le luxe de se payer une France avec encore 10 micro-partis de gauche qui sont d'accord tous à 90%?
Il se trouve que, tout en étant révolutionnaire, je ne suis pas pour le parti unique, visiblement, voilà. Et donc, je considère que la démocratie, c'est aussi les gens qui ont des idées différentes. Ils ont le droit de s'organiser, d'avoir un parti comme ils veulent. On peut être traité de micro-parti, on peut être menacé par tous les trucs de vote utile. On a des idées, on existe, les trotskistes, depuis longtemps. On a essayé de nous faire disparaître. Mais on continuera à exister parce que ça fait partie de la démocratie, justement. Maintenant, sur Frontex, Maintenant, sur Frontex, on a une position très simple. C'est monstrueux ce qui se passe. Là, je crois qu'on le partage tous. Et on a la position qu'on a, c'est liberté de circulation et liberté d'installation. Ici, liberté absolue. Pas de limite. Pas cette phrase horrible de Rocard sur « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », elle est monstrueuse, parce que cette misère, c'est nos puissances qui l'ont créée. Il faut accueillir tous ceux qui veulent s'installer, absolument, et combattre tous ceux qui défendent des idées contraires à ça. Maintenant, bourgeoisie, oligarchie, je ne vais pas répondre à la place d'Éric. Nous, je sais qu'on dit bourgeoisie, parce que justement, ce qu'on pointe, ce qu'on veut pointer, c'est que ceux qui ont le pouvoir dictatorial, on considère que c'est la dictature de la bourgeoisie, tout à fait, totalitaire si on veut, c'est ceux qui possèdent les moyens de production. Et ce terme de bourgeoisie a l'avantage de parler de ça, et pas seulement de ceux qui gouvernent momentanément, c'est-à-dire qui sont finalement que leurs serviteurs. Donc nous, on pointe ceux qu'il y a derrière Macron, pas seulement Macron et puis toute la salengeance avec lui, hein, mais ceux qui sont derrière. Ouais, je suis pas...